va procéder de la même manière, c'est-à-dire prendre quelques questions. Je ferai juste un très bref commentaire en disant qu'il me semble que dans les débats qui ont lieu depuis quelques années sur parenté et parentalité, la référence à l'anthropologie, comme vous le savez, elle est souvent rabattue sur un simple dénominateur commun. C'est-à-dire, au fond, comme le disait la garde des Sceaux pendant le débat sur le Pax, Claude Lévi-Strauss nous a appris qu'il y a des hommes et des femmes et que c'est nécessaire pour faire un enfant. Donc cette vision minimaliste de l'anthropologie n'est pas celle, je crois, qu'on a entendue aujourd'hui, mais ce n'est pas non plus l'inverse qui serait une posture purement culturaliste, à savoir, chez les uns c'est comme ci, chez les autres c'est comme ça. Il me semble que l'enjeu d'une telle anthropologie, c'est de montrer non pas que les places dans la société sont données par la nature, mais que justement, le travail de la société, c'est de produire les places des uns et des autres. Et en ce sens-là, il me semble que c'est une anthropologie qui ne se réduit ni à sa version, disons, relativiste culturaliste, ni à sa vision, disons, d'anthropologie religieuse ou dogmatique qui a pu se faire entendre ces dernières années. Donc, il y a une première question. Je regarde.
On va très rapidement pour les questions parce qu'on a déjà atteint l'heure.
Alors, je voudrais revenir sur l'article qu'il y avait dans le journal hier que j'ai lu. Et il se trouve que dans le même numéro du Monde, mais c'était dans le Monde des livres, il y avait un article sur Godelier qui invitait les lecteurs. De Godelier qui invitait ses lecteurs à considérer qu'il n'y avait pas que chez les Baruya ou chez les aborigènes qui nous étaient étrangers, mais que aussi bien à Aubervilliers ou peut-être sur les Champs-Élysées, on pouvait être dans un milieu qui était pour nous l'autre. Et il m'a semblé que ce que voulait dire l'anthropologue du Monde, c'était que juste pour les gens qui ont des enfants par des voies que l'on aurait dit naturelles, n'est-ce pas, un homme, une femme, et sans avoir encore rencontré ces choses de famille recomposée, etc., eh bien, les personnes, les couples, on va dire, qui n'ont pas d'enfants, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, eh bien, c'était des Baruyas. Et que, ou bien des gens des Champs-Élysées, ou d'Aubervilliers, ou de Saint-Ouen, hein, ou bien du Marais. C'est-à-dire qu'ils étaient leurs autres, et que ces autres-là, qui n'ont pas d'enfants, dans les démarches qu'ils font pour en avoir, ils parlent de quelque chose qui nous échappe à nous, et par quoi on est concerné, et que l'on a. Une certaine perversité donc qui est nôtre, même si nous avons des enfants normalement. Et là, j'ai été très frappée que Mme Moïseïev puisse dire que ça me semble une tout à fait fausse évidence que des personnes se sentiraient obligées d'avoir à transmettre quelque chose selon leur origine, et que chez nous, où on n'aurait pas de questions d'origine, donc on ne rencontrerait pas ces questions d'identité. Vous l'avez dit à peu près comme ça. Et alors, moi, ça m'étonne beaucoup, parce que précisément, on ne se poserait pas la question d'identité sexuelle aujourd'hui si on n'avait pas rencontré cette différence, peut-être par rapport à l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est né juif ou italien, bon, je prends des communautés qui sont déjà devenues très littéraires par le cinéma américain, la littérature, etc. Donc on peut s'imaginer quand on a envie de transmettre sa judéité, ou, etc., hein, dans ces diasporas. Mais précisément, transmettre, qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Transmettre, qu'est-ce que c'est qu'être une mère? Et à ce moment-là, on se trouve effectivement devant se poser une question d'identité. Et c'est celle que rencontre peut-être notre culture occidentale, parce qu'elle a suffisamment sa chrétienté, ou son histoire a été suffisamment confrontée par ses savoirs, justement, qu'est-ce que ça serait notre perversité ? C'est tout. Alors, je crois que vous êtes dans des fausses évidences. Ceci dit, j'ai été élève chez Pierre Legendre.
C'était quoi ? Élève chez Pierre Legendre. Pardon, je répétais puisqu'il n'avait pas entendu.
Je n'avais pas entendu.
Oh, ben, vous savez qui c'est, Pierre Legendre ?
Oh, très bien, oui, 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 oui.
On ne connaît que lui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dès à présent ?
Oui, je voudrais simplement observer que dans la transmission du rôle de parent, c'est simplement la transmission des rapports aux autres et de la vie. On transmet le rôle des parents quand on transmet à une fille le sentiment d'être une fille, le sentiment d'avoir un rôle dans la société, et c'est ce qu'elle retransmettra à ses enfants. Je ne pense pas qu'il y ait une transmission spécifique du rôle des parents. Je pense que la transmission, elle se fait simplement par la transmission d'une façon de vivre par rapport à ses enfants.
Simplement, moi, je suis contente de ce que vous avez dit au début. Après, sur les circoncisions, enfin, toutes ces trucs. La première partie, concernant justement cette espèce de séparation que vous faites entre le rôle de parent à être parent, à apprendre à être parent, à être dans la société, c'est un peu ce que tu disais, et d'autre part, ce rôle, cette espèce d'obligation à être contracepté, à avoir des rapports, à avoir une bonne sexualité, à avoir... Et je trouve très bien, parce que dans le fond, nulle part, on parle de cette deuxième chose dont vous parlez. Et on a, nous, on est confrontés à une demande, enfin... moi en ce qui me concerne, de tout ce qui est sexualité, contraception, mais jamais cette espèce de rôle d'apprendre à être parent. Alors la deuxième chose que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un tabou sur ces contraceptions dans la mesure où les parents, quelque part, c'est un moyen de ne pas être grands-parents ?
Alors sur ce... oui.
Pour la première question, je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi, mais j'ai l'impression que vous avez répondu pour moi. Enfin, j'ai l'impression que c'était une réponse à ce que je disais, mais je me suis probablement très très mal exprimée. Alors je suis. Non, mais pour vous, mais je parlais de la dame, la première dame. Donc ce que je voulais, enfin ce que je trouvais intéressant, c'était la continuité de ce qu'on disait, c'est-à-dire cette différence entre parenté et parentalité, que Daniel Borrier a attrapé, les termes n'existent pas dans la loi, mais il y a bien, disait-il, au niveau de la parentalité, une fonction qui est définie. Et par contre, effectivement, la filiation est bien définie, mais on voit bien que c'est ce dont il est question, ce qui est problématique à l'heure actuelle. Mais il n'y a pas une transmission dans ces autres sociétés. On impose aux parents de transmettre leur pouvoir reproducteur. Et ils doivent le faire. Je veux dire, après, ça marche ou ça ne marche pas, les individus l'utilisent ou ne l'utilisent pas. Suivant, en l'occurrence, les aborigènes australiens, contrairement à d'autres sociétés, ça ne leur posait pas de problème que des individus soient stériles, ce qui n'est pas toujours le cas dans des sociétés. Il se trouve que pour les aborigènes australiens, ça ne joue pas. Mais par contre, les parents devaient transmettre leur fonction parentale. C'est de ça dont je parlais, dans le fait qu'effectivement, du coup, Daniel Borrier, quand il disait, il n'y a pas de fonction filiative, il y a bien la filiation, ça correspond à un statut qu'on ne peut pas retirer, ça qui reste à vie. Mais par contre, il n'y a pas de fonction filiative. Dans d'autres sociétés, il y a une fonction filiative. C'est-à-dire que les parents sont sommés de transmettre leur fonction parentale comme un moyen de transmettre leur relation de parenté. Donc ça, c'est la première façon de vous répondre. La deuxième façon, je parlais par rapport aux minorités, par rapport, par exemple, les aborigènes australiens à l'heure actuelle. Ils représentent plus qu'1,5% de la population australienne, bon, quand même les personnes qui étaient là avant, les Européens. Et donc, pour eux, à la fois, ils sont complètement immergés dans une culture occidentale. Donc, ils sentent bien, ils ont, en moyenne, si vous voulez, l'âge au premier enfant est vraiment de plusieurs années de différence par rapport aux non-aborigènes en Australie. Alors, à la fois, ça leur pose problème, parce qu'ils se disent, oui, effectivement, du coup, ça empêche les enfants d'aller à l'école, etc., ce qui est aussi un choix de société. Pourquoi, à l'heure actuelle, par exemple, par rapport à la psychiatrisation, comme je suis en contact avec des équipes de gens qui s'occupent d'ados parents, je trouve ça incroyable qu'on veuille, par exemple, que tout tous les parents qui seraient adolescents, ils devraient être psychiatrisés, devraient être vus par un psychiatre, parce que c'est un risque, c'est considéré comme un risque. Je trouve ça honteux, personnellement. Parce que je trouve que c'est justement parce qu'on les ostracise et qu'on les stigmatise qu'on risque de faire en sorte qu'ils soient, comme vous disiez, les barouillas chez nous, c'est-à-dire vraiment des gens stigmatisés, comme effectivement ce que vous pouviez dire, de la façon dont vous ressentiez, la façon dont les gens peuvent se sentir stériles. Donc pour ces aborigènes, à la fois ils peuvent dire ça, et en même temps, à chaque fois qu'il y a un enfant qui naît, d'abord, immédiatement, il y a un changement de la façon de considérer le parent, même si le parent n'est pas en état d'élever l'enfant, parce que malheureusement, je veux dire, les ados, parfois aussi, ont des comportements d'ados. Mais il y a cette idée, ils ont tellement peur de disparaître, il y a cette idée que la noirceur de la peau va disparaître en fonction de l'immersion dans la culture, que d'avoir des enfants, c'est important. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, effectivement, que dans certaines minorités, en fait, une grande partie des minorités, c'était le cas, enfin, je veux dire, il y a des stratégies qui passent inaperçues, dont j'avais parlé effectivement lors de mon intervention la dernière fois, qui sont que ce soit en Irlande par rapport aux colonisateurs anglais, c'était tout à fait considéré, c'est pas seulement parce qu'ils étaient catholiques, parce que les musulmans au nord de l'Inde ne sont pas catholiques, mais en Palestine, les gens ne sont pas catholiques non plus, il y a des stratégies tout à fait conscientes d'avoir des enfants pour déborder, je veux dire, la société dominante. Ça participe d'un acte politique. Bien sûr.
Par rapport à l'ensemble, c'est-à-dire la stratégie de l'Occident romano-chrétien. Est-ce que ce n'est pas ça la question du colloque ?
En tout cas, je ne crois pas que notre intention était nataliste. Il n'y avait aucun propos de promotion démographique à l'origine de ce colloque. Et peut-être même que mon exposé tout à l'heure sur les questions faisant le lien entre filiation et nationalité n'ira pas dans le même sens.
Alors, deuxième pour madame, ben je suis d'accord avec vous. Enfin, je veux dire, par rapport à cette histoire de contraception, c'est vrai qu'on peut comprendre. Avec les maladies sexuellement transmissibles, du coup, ça s'est mêlé, ça paraît tout à fait logique. Mais quand on entend justement certains confrères gynécologues dire à la, ce qui n'est pas votre cas, mais à la radio, qu'il faut au moins se protéger trois fois plutôt qu'une quand on est ado. Hein. Il faut non seulement le préservatif, la crème spermicide et la pilule. Il y a une insistance. Et là encore, effectivement, la dernière fois, en montrant ce qui se joue dans les films de science-fiction ou d'horreur dont le public privilégié est les adolescents, on est très très clair avec le fait que sexe et reproduction ensemble, c'est potentiellement mortifère et c'est pas bien. Donc ça passe inaperçu des parents, mais les enfants, ils ont bien compris. Et les enfants, ils savent que de parler du fait d'avoir des enfants, ils ne le feront pas avec les parents. S'il y a effectivement un tabou du côté des enfants, ça, ils ont bien compris. Croyez-moi bien, c'est assez intéressant de voir qu'ils se le disent entre eux. Quoi. Bon, le sexe, on peut en parler aux parents, on peut parler comment on sodomise, etc., ça va. Mais parler d'avoir des enfants, s'ils veulent mettre en colère les parents, ça marche. Donc... Alors, la troisième question, vous me faisiez remarquer effectivement le fait qu'il n'était pas question effectivement de transmettre la fonction parentale, enfin de transmettre cette fonction de parent. C'est un petit peu comme ça, enfin moi j'avais séparé mon travail anthropologique de mon travail clinique. Pendant très longtemps, je voulais être ethnologue avant d'être médecin, puis comme je ne savais pas comment faire, j'ai commencé médecine et j'ai continué. Mais je me suis trouvée face à des familles qui avaient des problèmes avec leurs adolescents et justement qui étaient très perplexes. Chacun savait qu'il était censé changer, il ne savait pas comment faire. Et moi, j'étais en train de travailler sur les rites de puberté ailleurs et du coup, ma façon de faire, c'était de leur dire, écoutez, vous n'êtes pas les seuls, loin de là, à avoir des soucis avec vos ados. Et bon, ailleurs, ça se passe comme ça. Les parents, ici, ce n'est pas le cas, donc je ne vais pas vous dire de transmettre votre fonction parentale. Mais par contre, mon idée était de les aider à pouvoir transmettre l'histoire familiale, même et y compris s'ils ne voulaient pas de leurs enfants. Enfin, pour moi, ça m'importe peu que les parents n'aient pas voulu de leurs enfants et qu'ils le disent à leurs enfants. Je trouve pas que c'est très important. Enfin, ça peut être important du point de vue des individus, mais je veux dire, je n'ai pas une position normative par rapport à ça, et que c'était une façon, effectivement, de mettre les enfants en position dépositaire de l'histoire familiale était une façon de travailler la fonction filiative, une transmission de quelque chose. Après, les enfants font ce qu'ils veulent. Voilà, donc c'était un petit peu... C'était le point de départ, disons, de cette façon de présenter les choses d'un point de vue culturel comparatif.
Je crois qu'on va... vous remercier tous les deux, et on va s'arrêter là parce que c'est l'heure du repas. et que ça, c'est une fonction essentielle
à
laquelle nous ne renoncerons pas. Et nous reprenons à 14h30, mais vous aurez compris que nous espérons n'avoir pas épuisé, malgré la richesse des exposés, la totalité de ce qui pourrait être dit, puisque nous continuons jusqu'à demain soir. Merci beaucoup. Merci. Deux trucs étaient... Oui, tout à fait. On ne s'est pas mis d'accord, mais finalement...